Merci d'avoir choisi Europe 1. Cet été, Isabelle Morizet plonge dans ses meilleures archives et vous propose des rediffusions exceptionnelles. Découvrez ou redécouvrez ce soir les confidences du philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, venu se confier au micro d'Isabelle Morizet en janvier 2019. Il nous parle de sa vision de la vie, de la citadelle intérieure, de méditation. Son entretien en toute intimité, c'est tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour cher Frédéric Lenoir.
Bonjour Isabelle.
Alors, Frédéric Lenoir, il faut être aveugle et sourd pour ne pas réaliser que le monde actuel est soit en crise, soit en guerre. Le fanatisme, le communautarisme, les extrémismes religieux, sans parler bien sûr de l'idéologie dominante de nos sociétés de consommation, le consumérisme, qui échauffe les esprits et puis fait de nous des insatisfaits. Donc, le monde va mal, très mal. Mais vous prenez la méditation pour que chacun retrouve l'ajustement de sa vie intérieure. C'est ça.
Bah disons que je crois que la meilleure réponse à tout le fracas du monde, mais je fais une petite parenthèse, on dit que le monde va mal, il ne va pas plus mal qu'avant. C'est-à-dire qu'au fond, si on regarde l'histoire longue, hein, je ne parle pas des 20 dernières années, si on prend l'histoire longue, est-ce qu'il valait mieux vivre au temps des guerres napoléoniennes, au temps du XXe siècle, on a eu deux guerres mondiales atrocement meurtrières, ou au temps où il y a eu des épidémies de peste qui ont dévasté un tiers de l'Europe, etc. Je me dis finalement, le monde a toujours été assez chaotique et dangereux, et il va plutôt mieux globalement, parce qu'on vit plus longtemps, on vit quand même mieux, il y a moins de criminalité, etc. Donc, voilà, on est dans un monde qui est ce qu'il est, mais effectivement, on a besoin, je dirais, pour faire face à toute cette agitation, à toutes ces angoisses qui sont d'ailleurs fortement véhiculées par les médias, puisque avant on ne savait pas ce qui se passait partout. Aujourd'hui, il y a un attentat quelque part, on le sait partout. Et donc finalement, on est informé en permanence de tout ce qui va mal dans le monde, ce qui crée un climat anxiogène. Et je dirais, plus il y a ce climat anxiogène, plus il faut savoir y résister. Et résister, c'est un travail de vie intérieure.
Pour retourner dans sa petite citadelle intérieure.
Sa citadelle intérieure, c'est l'expression des stoïciens.
Ah oui.
C'est à la fois Épictète, Marc Aurèle, qui était empereur, hein, donc il vivait au cœur du monde. Ils ont effectivement eu l'idée de nous dire il existe à l'intérieur de nous une citadelle où on peut se retrancher pour être à l'abri de toute cette agitation. Et c'est retrouver ce
sans
calme
être
intérieur.
Aveugle et sans être dans
bien
l'indifférence
bien
du chaos
non.
Et des fracas du monde.
Bah, on est dans le monde, on connaît tout ça, et en même temps, on est capable de ne pas être contaminé en permanence par l'angoisse du monde. Et donc d'essayer de retrouver la sérénité et la paix à l'intérieur de soi, ce qui nous permet d'ailleurs de nous engager encore mieux pour essayer d'améliorer le monde. Moi, c'est ce qu'on essaie de faire.
Frédéric Lenoir, nul besoin d'être mystique pour méditer?
Pas du tout. Le mysticisme, c'est vraiment encore une fois une expérience spirituelle particulière, alors que la méditation, c'est juste retrouver un espace intérieur. C'est l'idée de reconnecter les fils pour être capable de faire un peu de silence à l'intérieur et calmer le mental, puisque vous savez qu'on pense tout le temps. On ne peut pas s'empêcher de penser. Et donc, on est tout le temps agité par nos pensées. Et la base de la méditation, c'est simplement d'essayer de calmer ce flot incessant, ce cinéma incessant des pensées. Et pour ça, on essaye de mettre notre attention sur notre respiration ou sur nos sensations corporelles, afin de pouvoir, en focalisant son attention sur notre corps, arrêter de suivre toutes les pensées qui arrivent. Alors, petite précision, on n'y arrivera jamais. Il y aura toujours des pensées, mais de moins en moins. Et on arrêtera de les suivre. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez une pensée, vous êtes en train de faire une émission de radio, puis vous avez une pensée qui vous arrive, j'ai oublié d'acheter du beurre. Bon, vous pouvez en
non,
rester...
parce que je suis totalement concentré sur ce que vous me dites.
Mais ça peut arriver. Et chacun dans son travail a des distractions. On pense à ça. Et là, on peut soit dire stop, j'arrête de penser, je continue, je me reconcentre sur ce que je fais, soit on va dire... Tiens, j'ai oublié d'acheter du beurre. Est-ce que le Monoprix sera encore ouvert quand je vais rentrer ce soir? Ah ben non, alors du coup, et là, on part dans le flot incessant des pensées, une pensée entraînant une autre pensée. Et le but de la méditation, c'est lorsqu'une pensée arrive, on l'observe, tiens, j'ai oublié d'acheter du beurre, et on ne la suit pas. On revient à son corps, on revient à sa respiration, ce qui permet de faire un silence intérieur
alors, tout
avant
ça
qu'une autre pensée survienne.
Très facile à faire lorsqu'on vous écoute, mais j'imagine, Frédéric Lenoir, qu'en France, les cartésiens que nous sommes se méfient de la méditation.
Oui, mais ça, c'est un mauvais procès, c'est à cause du mot, simplement. Le mot méditation, c'est un mot qui est connoté par la spiritualité orientale. Et du coup, on pense bouddhisme, on pense hindouisme, on se dit, mais la méditation, c'est religieux. Alors que il faut concevoir effectivement qu'il y a une origine orientale et religieuse de la méditation, mais celle qu'on pratique aujourd'hui en Occident, ça vient de la mindfulness, qu'on a traduit pleine conscience et qu'on pourrait traduire...
Vous n'aimez pas du tout
j'aime
cette traduction.
Pleine conscience, parce que le mot conscience, il est complexe. Il veut dire beaucoup de choses.
Il faudrait dire en plein éveil. n'est-ce pas ? Pleine attention.
Non, pleine attention, pleine présence. Il s'agit d'être attentif et présent, tout simplement. Et donc, la mindfulness, c'est totalement laïque. Il s'agit simplement d'être présent à son corps. Alors, bien sûr, derrière la mindfulness, le fondateur de la mindfulness, qui est un scientifique américain, il a pratiqué la méditation bouddhiste. Donc, il s'est inspiré de la méditation bouddhiste, mais il n'en a gardé qu'un substrat, je dirais, psycho-corporel, dans lequel la dimension spirituelle n'est plus présente.
Alors, Frédéric Lenoir, tout ça pourrait paraître à certains fumeux si on ne précisait pas que, donc, aux États-Unis, on pratique la méditation dans plus de 500 établissements hospitaliers. Au Canada, plusieurs facultés ont rendu obligatoires les ateliers de méditation dans le cursus des futurs médecins. Et puis chez nous, je l'ai appris en lisant votre ouvrage, une fois par semaine au Palais Bourbon, eh bien, une dizaine de députés, initiés par le psychiatre Christophe André, se réunissent pour méditer. Donc, il y a une reconnaissance du monde scientifique et des intellectuels qui ne sont pas du tout dans, en fait, ce mode bobo mystique.
Non, mais la reconnaissance, elle vient de la science.
La réalité de l'impact
a été prouvée.
En fait, de l'esprit sur le corps est prouvée scientifiquement.
Alors, tout à fait. Et notamment dans le cas de la méditation, parce que la mindfulness, il y a eu à peu près 10 000 études aux États-Unis scientifiques par 4 ou 5 universités qui ont fait des études tout simplement sur des gens qui pratiquaient un peu, beaucoup, très régulièrement la méditation. Et on a étudié, grâce à tous des procédés d'imagerie cérébrale, etc., on a étudié l'impact de la méditation sur leur vie.
Le moine Mathieu Ricard s'est prêté d'ailleurs à certaines
cobayes.
Expériences, n'est-ce pas ?
Il y a 30 ans, c'est un des premiers cobayes.
Voilà.
Et donc aujourd'hui, il y a tellement d'études qui ont montré qu'il y avait une très forte réduction du stress et de l'anxiété. Ça, c'est le premier effet de la méditation. C'est que les gens qui sont anxieux ou stressés, ça diminue considérablement le stress et l'anxiété, qui est quand même une des principales maladies qu'on a en Occident. Et puis, on voit d'autres impacts sur le vieillissement, sur l'amélioration même des télomères. Les télomères, ce sont des gènes qui sont liés au vieillissement. Et donc, on voit qu'on peut modifier notre patrimoine génétique grâce à la méditation, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc aujourd'hui, on fait des découvertes tous les jours
absolument
sur les impacts positifs de la méditation.
Et on va creuser ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, cette question... Quand les religieux, par exemple, sont dans le recueillement, concentrés sur leur expérience spirituelle et prient, on peut dire que c'est une forme de méditation ?
Alors, c'est une forme de méditation, mais particulière. Il y a de commun avec la méditation laïque telle qu'on en parle, le fait de faire silence intérieurement, le fait de se recueillir, le fait de ne plus être dans l'agitation, le fait d'être intériorisé. La différence, c'est que dans la prière, il va y avoir, d'une certaine manière, une méditation avec objet. L'objet, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'on va... on va se concentrer sur une relation avec un être invisible. Et ça, ce n'est pas ce qu'on fait dans la méditation. Dans la méditation, on fait plutôt une méditation ouverte, dans laquelle on accueille ce qui est, sans forcément, au départ, orienter son esprit vers une force invisible qui nous dépasse. C'est pour ça qu'on pourrait dire que la méditation et la prière, là, ce qui les différencie,
oui,
c'est que l'un est neutre, la méditation, vous êtes là, simplement, présent à ce qui est, vous accueillez ce qui est, alors que dans la prière, vous orientez votre esprit vers une rencontre, vers une relation, et notamment une relation avec quelqu'un qui est invisible, qu'on appelle Dieu.
Il y a une chose qui m'intrigue, Frédéric Lenoir. J'ai appris dans votre livre, je le rappelle, intitulé « Méditer à cœur ouvert » et qui vient de paraître chez Nil Édition, j'ai appris que la méditation bouddhiste, qui est en plein essor en Occident, est en réalité très peu pratiquée en Asie.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, tout simplement parce que au départ, le bouddhisme est plus une philosophie qu'une religion. Et donc, le Bouddha est très rationnel. Il transmet des enseignements liés à son expérience. Il transmet l'expérience de la méditation, dont le premier niveau, c'est le calme mental, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, après la mort du Bouddha, il va être divinisé. Et on va s'apercevoir que dans la plupart des religions, enfin des pays asiatiques où le bouddhisme s'est développé, eh ben, on va faire des statues au Bouddha, on va honorer le Bouddha, on va lui offrir... Et suite voyager.
Ça va devenir une histoire de rituels et d'offrandes.
De rituels et d'offrandes. Et quand vous allez aujourd'hui en Thaïlande, en Birmanie, au Laos, dans tous les pays bouddhistes, vous voyez que la religion populaire, c'est d'offrir des offrandes au Bouddha pour lui demander sa protection, exactement comme dans
les
églises catholiques.
Mais alors, ça veut dire, par exemple, que l'Inde serait en fait plus le pays des rituels que de la spiritualité, non, alors que l'Occident, lui, est en manque.
L'Inde, c'est un peu différent, parce qu'on trouve les deux dimensions. Mais c'est vrai que dans les pays bouddhistes, l'Inde n'est pas un pays bouddhiste. Hein. Le bouddhisme a été chassé d'Inde. Donc, c'est tous les pays plutôt du sud-est asiatique, et,
oui,
et puis la Chine, le Japon, etc. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que dans ces pays bouddhistes, effectivement, il n'y a presque plus de spiritualité. C'est-à-dire que les gens pratiquent la religion bouddhiste comme quelque chose de naturel, je dirais de social, hein, comme nous, on a vécu en France le catholicisme comme une religion sociale. On fait des rituels pour la mort,
mais
la naissance,
la vraie
etc.
dimension spirituelle.
La dimension spirituelle est très peu présente. Et il n'y a que les moines qui méditent. Les laïcs ne méditent plus. Et donc finalement, vous avez une élite qui pratique la méditation. Et lorsque le bouddhisme est venu en Occident, il est venu par cette élite. C'est-à-dire que ce n'est pas la religiosité populaire qui est venue en Occident, c'est la religiosité des moines, c'est-à-dire l'élite spirituelle.
Mais ce sont maintenant en Occident les laïcs qui méditent.
Voilà, exactement. Donc il y a eu dans un premier temps des lamas tibétains, des moines japonais qui sont venus, qui ont appris la méditation. Et puis il y a des gens qui s'en sont emparés et qui se sont dit « mais on va en faire quelque chose de laïque ». Parce qu'on voit que ça a des effets, on voit que c'est efficace. Et donc, on va laisser tomber l'arrière-fond bouddhiste. Et puis, on va simplement essayer de voir ce que ça nous apporte dans notre vie pour aller mieux, pour vivre mieux.
Jusqu'à 22h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Ce soir, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir est au micro d'Isabelle Morizet. On les retrouve dans un court instant sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1.
Le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir est avec nous ce soir dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Il nous parle tout de suite de la philosophie comme une planche de salut dans sa vie. Belle soirée sur Europe 1.
Cher Frédéric, lorsqu'on a une mère spécialiste des codex médiévaux et un père énarque, catholique progressiste, qui fut secrétaire d'État aux questions sociales sous Giscard et qui vous fit lire, à l'âge de seulement 13 ans, le banquet de Platon, puis dans la foulée d'ailleurs tous les philosophes grecs et ensuite les évangiles, eh bien... on ne démarre pas dans la vie de manière anodine.
Oui, mais ça, c'est un aspect. C'est-à-dire que j'ai eu une transmission...
Ah, c'est factuel tout de même.
Non, mais vous allez voir, il y a un autre aspect. Ça, c'est l'aspect intellectuel. Donc, j'ai eu la chance d'avoir effectivement des parents qui m'ont transmis un savoir culturel. Et c'est formidable parce que très jeune, ben, on parlait d'un tas de choses passionnantes à table. Et l'autre aspect, c'est que mes parents, par contre, avaient des gros problèmes personnels et qui ne s'entendaient pas du tout entre eux. Ce qui fait que d'un côté, intellectuellement, j'étais très nourri, mais effectivement, c'était très douloureux. Et donc ma vie, elle a commencé comme ça, avec d'un côté, je dirais, une très grande misère affective et beaucoup de problèmes.
Qui faisait que peut-être
ensuite.
Vous vous réfugiez encore davantage dans les livres.
Certainement. Et que pour moi, la philosophie, ça a été une planche de salut. Et que quand à 13-14 ans, j'ai découvert Socrate et les écrits socratiques, mais ça a été une bouffée d'oxygène et je suis parti certainement dans les idées, dans la philosophie, pour essayer de fuir aussi cette douleur affective et émotionnelle. Et puis après, j'ai fait tout un travail de thérapie pour essayer de régler ce problème-là.
Alors, vous avez donc manié très tôt l'introspection. Est-ce que vous avez eu le temps d'être un adolescent ?
Ah oui, j'ai créé un groupe rock, j'ai vécu tout à fait normalement, oui vraiment. J'ai vraiment vécu mon adolescence, heureusement, c'est-à-dire j'étais pas un pur intellectuel. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai eu très tôt, peut-être plus tôt que beaucoup de gens, une passion pour la spiritualité, pour la philosophie. Pourquoi ? Parce que je me suis posé la question très jeune, qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Est-ce que Dieu existe ? Toutes ces questions m'ont paru mais essentielles.
Et qu'on se pose forcément quand on se sent mal aimé.
On se pose petit enfant. Et puis après, on oublie on ne se les pose plus. Ça revient
des
fois.
Sauf que vous avez continué.
Sauf que moi, j'ai continué, sans doute pour les raisons que vous avez évoquées.
Alors, Frédéric Lenoir, comment la spiritualité indienne et le bouddhisme tibétain sont-ils entrés dans votre vie ? Parce que vous n'aviez pas 20 ans quand vous êtes parti à Dharamsala, au nord de l'Inde, passer 6 semaines auprès du Dalai Lama. Donc, je voudrais savoir sur quelle impulsion avez-vous fait votre valise ?
En fait, je suis parti en Inde pour deux raisons. J'avais vu un documentaire à la télé sur Mère Teresa. Et j'avais été bouleversé parce que je l'avais vu redonner la vie à un enfant qu'elle avait ramassé dans une poubelle, elle le secouait, elle l'embrassait et l'enfant se mettait à sourire. C'était extraordinaire. Donc je me suis dit, je veux aller passer 2 mois à Calcutta, travailler chez Mère Teresa. Et puis par ailleurs, j'avais lu des ouvrages sur le bouddhisme tibétain. Et donc je me suis dit, je veux rencontrer des lamas tibétains. Donc je suis parti en Inde après mon bac et je me suis dit, voilà, je vais prendre 4 mois ou 6 mois, je ne sais même plus, en tout cas un grand temps, pour essayer... d'une part de travailler chez Mère Teresa, d'autre part de rencontrer des lamas tibétains. Et à Dharamsala, c'est là que j'ai rencontré effectivement le Dalai Lama pour la première fois.
C'était en 1982, c'est ouais. Ça
oui. J'ai rencontré 12 fois depuis et j'ai été initié à la méditation tibétaine.
Mais alors comment le très jeune occidental que vous étiez a-t-il été accueilli ?
Mais très bien.
La démarche n'était pas si fréquente que ça à l'époque.
Si.
Si.
Soyons clairs, il y a beaucoup de gens qui ont été en Inde parce qu'on a 20 ans. Si c'est pas à 20 ans qu'on
mais
a un élan un peu mystique, qu'on veut faire un peu un tour du monde.
Avec la démarche qui est la vôtre, qui était vraiment très spirituelle et intellectuelle.
J'ai rencontré beaucoup de gens là-bas qui faisaient la même démarche que moi. Des Canadiens, des Hollandais, des Américains. Des gens du monde entier venaient à Dharamsala pour rencontrer les lamas tibétains et à Calcutta. J'ai aussi rencontré des gens du monde entier qui venaient comme volontaires pour travailler dans le mouroir, dans les léproseries, etc. Donc non, ma démarche n'est pas unique. Je ne dirais pas qu'elle est majoritaire, non. Bien sûr.
Vous avez trouvé la base que vous étiez venu chercher ?
Certainement, parce que ma vie a pris un tournant. Et que déjà, l'apprentissage de la méditation, c'est quelque chose que j'ai appris maintenant, ça fait 35 ans, ça ne m'a pas quitté. Donc là, il y a vraiment quelque chose que j'ai appris, qui a pris racine. Et puis, en Inde, j'ai été frappé par la joie qu'il y avait chez les lépreux, les mourants, des personnes qu'on avait ramassées dans la rue, etc. Malgré une extrême dénuement, souffrance, douleur physique.
On entend souvent ce constat et c'est difficile à imaginer.
Et là, je l'ai réalisé parce que je suis rentré après plusieurs mois là-bas à Paris et je trouvais que tous les gens dans le métro avaient des têtes sinistres. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que des gens qui sont plutôt en bonne santé, qui ont un confort matériel et tout, ont l'air malheureux, alors que des gens qui n'ont rien là-bas ont l'air heureux? Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, c'est quoi le bonheur?
Mais vous êtes rentré chez nous, vous n'êtes pas resté là-bas, Frédéric
Lenoir.
Non, non,
bien sûr, moi ce que j'avais envie, c'était de vivre ma vie d'occidental. Je n'allais pas fuir cette vie-là. J'avais envie de la vivre, mais de la vivre avec des valeurs humanistes, avec des valeurs spirituelles, fondées sur une compréhension de l'être humain qui n'était pas uniquement le consumérisme. Et donc je me suis dit, je ne vais pas faire un métier simplement pour gagner de l'argent. J'ai eu envie vraiment de faire quelque chose qui ait du sens.
Alors, être initié à la méditation à seulement 20 ans par un moine tibétain, j'imagine que ça donne sans doute une autre dimension à l'exercice, non ?
Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que la manière dont je l'ai appris, vous savez, pour aller très vite, dans le bouddhisme tibétain, vous avez deux étapes dans la méditation. La première étape, qu'on appelle shiné, c'est simplement le calme mental. Et c'est exactement ce que va devenir la mindfulness. Et ça, on peut l'apprendre aujourd'hui en Occident sans du tout s'intéresser au bouddhisme.
Qui est très généralement pratiqué, par le plus grand nombre.
Le deuxième niveau, l'aktong, c'est la vision pénétrante. Et là, on rentre dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'on cherche effectivement à méditer sur la vécuité, sur le sens de l'existence, sur l'ego, le lâcher de l'ego, etc.
C'est votre pratique à vous ?
Et donc moi, c'est une pratique que j'ai faite aussi, parce que j'avais une quête spirituelle. J'ai gardé les deux niveaux. Mais aujourd'hui, je suis très à l'aise parce que le premier niveau, c'est celui qui est très répandu. C'est ce que je transmets le plus, évidemment, au public lorsque je rencontre des gens qui souhaitent être initiés à la méditation.
En tout cas, il n'est pas étonnant, Frédéric Lenoir, qu'au terme de vos études de philosophie, eh bien, le sujet que vous ayez choisi donc, pour votre thèse de doctorat ait été la rencontre du bouddhisme et de l'Occident.
Oui, parce que j'avais lu, et d'ailleurs j'avais été frappé par cette phrase, le très grand historien des civilisations, Arnold Toynbee, c'est le plus grand historien des civilisations anglais, il est mort il y a une quinzaine d'années, avait écrit, on lui avait posé la question dans une émission de radio, quel sera selon vous, ou quel reste dans l'échelle des civilisations, le plus grand événement du XXe siècle? Vous savez ce qu'il a répondu?
La rencontre
du bouddhisme et de l'Occident. Il disait ça, l'événement qui marquera le plus l'histoire humaine. Et j'ai réfléchi à ça. Et comme j'en avais une petite expérience, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que l'Occident a apporté tout son progrès scientifique, technologique, etc. à l'humanité entière. Et ce qui lui manque, c'est une sagesse. Et cette sagesse, elle vient du bouddhisme. Parce que le bouddhisme est une sagesse laïque, au fond. Elle ne parle pas de Dieu, elle est agnostique. Et donc, il s'agit simplement de se connaître, de travailler sur soi. Et donc, finalement, la rencontre de la sagesse intérieure du bouddhisme et de la science et de la technologie occidentale sont nécessaires. Les deux, chacun a besoin de l'autre, d'une certaine manière. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est un événement majeur.
Jusqu'à 22h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Ce soir, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir est au micro d'Isabelle Morizet. On les retrouve dans un court instant sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Frédéric Lenoir se confie ce soir dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il nous parle tout de suite de son attirance pour la vie monastique. Belle soirée à tous sur Europe 1.
Cher Frédéric Lenoir, on évoquait à l'instant votre découverte de la spiritualité indienne et votre initiation à la méditation par un moine tibétain, donc à Dharamsala, quand vous aviez à peine 20 ans. Mais il ne faudrait pas oublier que votre quête spirituelle, elle vous a emmené donc pendant 3 ans dans un monastère chez les frères de la communauté Saint-Jean à Fribourg. J'étais très surprise d'apprendre ça. Autre expérience, pourquoi n'êtes-vous pas devenu moine ?
En fait, j'ai été attiré par la vie monastique parce que lorsque déjà j'ai découvert l'importance de la méditation en Inde, j'avais envie de plus en plus de méditer, de consacrer du temps à la vie intérieure. Et puis, j'ai fait une rencontre très forte avec les évangiles. Et comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé chez Mère Teresa, j'ai été bouleversé par cette expérience. Et donc, je me suis dit, j'ai envie, ce que m'a apporté l'évangile, c'est le cœur. Parce que tout le message de Jésus dans l'évangile, c'est l'amour. C'est vraiment un message d'amour, ce qui manquait un peu dans ma pratique bouddhiste. Parce que dans le bouddhisme, j'étais finalement sur la sagesse, j'étais sur quelque chose qui me permettait de m'intérioriser, de trouver la sérénité. Mais je dirais qu'il y a une joie de l'amour que j'ai plus rencontrée dans le message des évangiles. Et j'ai voulu effectivement m'engager dans la vie monastique. J'y ai passé quelques années tout en poursuivant mes études de philosophie.
Ça n'est pas anodin, 3 ans.
Non,
vous
non,
avez été très très près de prononcer vos vœux.
Je me suis posé la question. Et puis je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait pour deux raisons. D'abord, je n'étais pas fait pour vivre la chasteté toute
reclus.
Non, mais la chasteté tout simplement. J'ai envie de tendresse. J'ai envie de pouvoir vivre une expérience amoureuse avec une femme. Je sentais que j'avais ce désir-là profond en moi et donc je n'étais pas fait pour mener cette vie chaste et solitaire. La deuxième chose, c'est que j'ai tout fait de plus en plus dans l'Église. Puisque pour moi, autant j'étais touché par le message des évangiles, par le Christ, par Jésus, autant après l'Église, bah, j'ai trouvé beaucoup de sectarisme.
Est-ce que ça signifie que vous étiez plus, en fait, dans une démarche de compréhension que de service ?
Non, il y avait les deux, parce que quand vous êtes moine, vous servez, hein, vous êtes pauvre, faites vœu de pauvreté. Vous occupez des autres, je continuais de m'occuper de... On avait toujours un service auprès de personnes pauvres, démunies, etc. Non, c'est une vie très humble, hein, la vie monastique, c'est une vie de service. Mais c'est plutôt
oui, mais
que j'étais mal dans l'institution.
Vous en êtes détaché.
Oui, mais parce que j'étais pas bien dans l'institution. C'est-à-dire, je me voyais pas, je n'arrivais pas à rentrer, entre guillemets, dans le dogme catholique.
Mais tout de même,
parce
Bouddha,
que je pratiquais la méditation,
puis ensuite le Christ, trois années dans un monastère.
Et d'abord la philosophie.
Oui, et d'abord la philosophie, mais c'est une quête essentiellement religieuse,
ça,
en fait, qui vous portait.
C'est une quête spirituelle, plus que religieuse. Et c'est parce que c'est une quête spirituelle, plus que religieuse, que j'ai quitté le monastère. Parce qu'il y avait trop de religion dans le monastère. Il y avait trop de messes, de rituels, de cérémonies auxquelles je n'adhérais pas tout le temps.
Alors, comment êtes-vous devenu un penseur laïque, totalement laïque ?
En fait,
laïque.
Je continue d'avoir une quête spirituelle. C'est-à-dire que je m'interroge sur le sens de l'existence, je continue d'avoir des pratiques spirituelles, mais un peu comme le faisaient les stoïciens ou les écoles de sagesse de l'Antiquité. Vous savez que les épicuriens, les stoïciens, ils pratiquaient la méditation, ils pratiquaient des exercices spirituels. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Quel est le but pour moi ? C'est de grandir en humanité, c'est de m'améliorer, c'est d'être un meilleur être humain. Et pour ça, on n'a pas besoin de religion. La religion peut nous aider, elle peut être un obstacle aussi. Pour moi, à un moment donné, elle est devenue un obstacle. Et donc, j'ai laissé de côté la religion pour garder le meilleur de la religion, c'est-à-dire la spiritualité, le travail sur soi, la connaissance de soi. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être religieux.
Alors, il est donc vrai que la phrase qui vous déstabilise le plus, Frédéric Lenoir, c'est « Est-ce que vous croyez en Dieu ?»
Mais parce que je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Le mot « Dieu », vous savez, on a posé la question à Einstein. Il a répondu « Dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si je crois en lui. » Et c'est une très, très bonne réponse. Parce que derrière le mot « Dieu », on peut tout mettre. Alors, pour aller vite, je vais quand même vous répondre. Pour aller vite, je dirais que je crois au Dieu de Spinoza, c'est-à-dire un Dieu cosmique. C'est-à-dire, je crois que l'univers a un sens, qu'il y a un ordre cosmique, mais il n'y a pas une personne, si vous voulez, auquel on peut parler, comme on
alors,
fait dans le cadre
il
de
faut,
la Bible.
Il faut rappeler, hein, Spinoza, le philosophe de la joie, celui qui, bien avant Freud, a en fait exploré la psychologie des profondeurs, c'est ça ?
Alors, d'une part, ça, oui, a exploré la psychologie des profondeurs, c'est le grand philosophe des émotions, des affects,
ouais.
Mais c'est aussi un grand métaphysicien qui a construit son livre sur l'idée de Dieu. L'éthique commence par Dieu. Et quel est le Dieu de Spinoza ? Il nous dit que c'est la substance du monde. C'est un être infini qui porte le monde. Mais c'est le monde. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu, c'est la nature. C'est la totalité des lois de la nature qui gouvernent le monde. C'est les lois de la vie. Et donc, ce n'est pas une personne à laquelle on peut s'adresser. Alors, je crois qu'on peut s'adresser au Christ ou au saint ou qui vous voulez, ou au Bouddha, à la limite, pourquoi pas. Mais Dieu, c'est plus, entre guillemets, une force, une énergie, une harmonie, une intelligence qui gouverne le monde. Et je crois qu'on l'a trop personnalisé. C'est pour ça qu'on dit ce que je crois en Dieu. Je dirais, je ne crois pas au Dieu des monothéismes, au Dieu de la Bible, mais je crois dans ce Dieu mystique et dans ce Dieu cosmique de Spinoza, comme Einstein d'ailleurs.
Frédéric Lenoir, juste cette question avant de faire une courte pause, parce que vraiment, elle me taraude. Est-ce que la sagesse est plus difficile à trouver que la foi ?
C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la foi, généralement, ça vous tombe dessus. C'est un peu comme une grâce. Alors, vous avez la foi ou vous ne l'avez pas, alors que la sagesse, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'expérience. Vous grandissez dans la sagesse en la pratiquant. Et la sagesse, ça ne vous tombe pas dessus comme une révélation. C'est une pratique. C'est une pratique pour essayer de s'améliorer. C'est une pratique pour être plus vertueux. C'est une pratique pour être plus raisonnable. C'est une pratique pour être plus responsable, plus juste. Et donc, je dirais qu'elle s'éprouve, la sagesse. Alors que la foi, pourquoi vous croyez ?
Donc, comme
elle
s'éprouve, elle est peut-être plus difficile à rencontrer
que la foi. En tout cas, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Et je dirais que ce qui me paraît très important, c'est que ce qui compte, c'est l'intention. C'est l'intention de progresser, de s'améliorer, d'être sage, même si on ne sera jamais sage. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y a jamais eu de sage dans l'histoire de l'humanité. Total, il y a des gens qui progressent dans la sagesse, qui cheminent. Mais comme le dit Montaigne, il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre. C'est-à-dire que c'est important d'avoir un but, c'est important d'avoir un objectif. Et du coup, la vie va nous aider à atteindre ce but. Et bien, je dirais que moi, j'ai choisi d'essayer de m'améliorer en tant qu'être humain, ce qu'on appelle la sagesse. J'ai essayé d'aller vers un bonheur plus profond, plus durable. J'ai essayé d'être utile aux autres. Et ce choix-là fait que je m'aperçois que la vie m'aide de plus en plus à progresser dans cette direction.
Dans un instant, la suite de cet échange intime entre Isabelle Morizet et le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. Il nous parlera de l'impact de la méditation sur les différentes zones du cerveau. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir se confie ce soir dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Très belle soirée à tous sur Europe 1.
Alors, cher Frédéric Lenoir, on connaît désormais de façon scientifiquement prouvée l'impact de l'entraînement de l'esprit sur le corps grâce à Francesco Varella, spécialiste des neurosciences mondialement réputé, qui dans son laboratoire de la Pitié-Salpêtrière a validé et mesuré grâce à l'imagerie cérébrale l'impact donc de la méditation sur les différentes zones du cerveau. Francesco Varella, il a d'abord pris en fait pour cobaye, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure dans son laboratoire, le moine bien connu Mathieu Ricard. Et ses études ont démontré qu'on pouvait modifier nos circuits neuronaux, mais aussi notre système vasculaire, juste comme ça, par la force de l'esprit. Alors, je souhaiterais vraiment qu'à ce moment donc de notre conversation, vous nous racontiez l'incroyable histoire qui concerne votre père, alors âgé de 84 ans, votre père hospitalisé d'urgence pour un problème cardiaque gravissime et à qui absolument tous les médecins donnaient seulement 24 heures d'espérance de vie avant d'être, ils en étaient persuadés, terrassés par une hémorragie interne. Que s'est-il passé ?
Ben effectivement, on m'appelle comme mes trois autres frères et sœurs au chevet de mon père qui habitait Aix-en-Provence et les médecins nous disent il a une section de l'aorte, on ne peut pas l'opérer à 84 ans avec tous les problèmes cardiaques antérieurs et donc il a maximum 24 heures d'espérance de vie, il va faire une hémorragie interne. Donc on arrive tous et puis on est auprès de lui. Et puis mon père était quelqu'un d'assez serein, c'est quelqu'un qui il était prêt à mourir, donc il l'acceptait. Et puis j'ai une sœur qui est hypnothérapeute, qui dit « Papa, tu as quand même une très grande puissance d'esprit. » C'est quelqu'un qui avait une puissance mentale extrêmement forte. Elle lui dit « Tu devrais essayer de visualiser la cicatrisation de ton aorte. » Parce qu'à ton âge, ça ne peut plus cicatriser naturellement, mais avec la force de l'esprit, tu pourrais peut-être arriver à essayer de faire un début de cicatrisation. Il a fait ça, et jour et nuit, il a visualisé tout simplement son aorte en train de cicatriser. Et 8 jours après, les médecins voyant qu'il ne mourait pas alors qu'elle était au bord de la rupture, ils ont vu que l'aorte était en train de cicatriser, et elle a totalement cicatrisé, sans aucune explication scientifique. Donc c'est simplement la force de l'esprit.
Et votre père a vécu 7 ans de plus. Oui, mais alors vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une corrélation entre l'hypnose et la méditation ?
En tout cas, oui, c'est-à-dire que tout ça, c'est la force de l'esprit. C'est-à-dire la corrélation, c'est que notre esprit a un impact déterminant sur notre corps. Quand je vous disais que la méditation apaise le stress et l'anxiété, c'est simplement que vous apprenez à entraîner votre esprit. Vous entraînez votre esprit à ne plus partir dans la rumination permanente des pensées, mais à se calmer, vous laissez passer les pensées, et du coup, vous êtes beaucoup plus présent à votre corps. Et il y a du coup une relation...
Mais là, on parle quand même de chair lésée.
Oui, parce que là, il y a un exercice plus particulier qui est la concentration de l'esprit sur un point particulier du corps en vue d'une guérison. Donc là, il a vraiment fait ça spécifiquement. Et on peut utiliser la force de l'esprit dans un tas de maladies pour essayer de mieux guérir. Et donc là-dessus, on s'aperçoit que la part de l'esprit dans la guérison est essentielle.
En même temps, même bien le moral, évidemment, on n'est absolument pas en train de dire que pratiquer l'hypnose, de tous les la cancers. Méditation, non, voilà, ça va ça arrêter aide. Les métastases d'un cancer,
non,
par exemple.
Non, mais bien évidemment que le moral et l'esprit vont être déterminants dans la guérison. Si vous n'avez aucune croyance dans la guérison, vous avez beaucoup moins de chances de guérir que si vous croyez dans la guérison. Si vous appliquez votre esprit par une concentration, que la méditation vous aide à vous concentrer. Si vous apprenez à vous concentrer, vous serez plus capable d'essayer d'entamer un processus de guérison qui va accompagner la médecine traditionnelle. Il ne s'agit pas de la laisser tomber, bien évidemment. C'est complémentaire, mais ça joue un rôle déterminant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de médecins, je le disais tout à l'heure, qui font pratiquer la méditation à leurs patients parce qu'ils se rendent compte que ça les aide.
Mais il y a tout de même une chose qui m'intrigue. Dans le chapitre concernant l'impact de l'entraînement de l'esprit sur le corps, vous écrivez, Frédéric Lenoir, qu'on peut modifier notre patrimoine génétique.
Ah bah
là,
ça,
je reste incrédule.
Ah bah non, ça a été totalement prouvé. J'ai donné l'exemple, je le réexplique.
Oui, mais...
Le plus connu, c'est les télomères. Les télomères, encore une fois, ce sont des gènes qui sont liés au vieillissement cellulaire. Et on peut faire modifier les télomères, c'est-à-dire notre patrimoine génétique, si on médite beaucoup. Les gens qui ont un mode de vie très sain, les gens qui vivent par exemple à la campagne, qui ont un sommeil régulier, etc., et les gens qui méditent, même s'ils sont citadins, ils vont améliorer les télomères. Alors que si vous avez une vie dissolue, stressante, etc., et ben vos télomères, finalement, peuvent même diminuer. C'est-à-dire que vous allez diminuer votre vieillissement cellulaire. Et donc là, on voit l'impact direct. On a fait des études sur des gens qui méditaient tous les jours 2-3 heures. on s'apercevait au bout d'un an que leur télomère avait grandi, s'était allongé. On a fait la même chose avec les neurotransmetteurs. Vous savez, c'est ces gènes qui diffusent la sérotonine et la dopamine,
ouais,
qui sont des substances chimiques produites dans le cerveau qui apportent du bien-être.
Ouais.
Et ben on s'aperçoit que la taille des neurotransmetteurs peut varier. Et ça va varier, parce que c'est une chance d'avoir des grands neurotransmetteurs. Ça va nous emmener encore plus, finalement, de dopamine et de sérotonine.
Plus on médite, plus, ils grandissent.
Et ben, donc, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un impact sur notre génétique. C'est ce qu'on appelle depuis 15 ans l'épigénétique. Et un des éléments déterminants de l'épigénétique, c'est-à-dire de la modification de nos gènes, c'est la méditation.
Alors, Frédéric Lenoir, ce livre qui paraît chez Nil Éditions a pour titre « Méditer à cœur ouvert ». Mais moi, j'imaginais que la méditation se faisait forcément avec à la fois le corps, le cœur et l'esprit.
Et non. C'est que dans ce qu'on appelle la mindfulness, la pleine conscience, au fond, c'est surtout l'esprit et le corps. Donc, on essaye de calmer les pensées, on essaye d'être présent à notre corps. Donc, d'une certaine manière, on est tout à fait attentif, présent à notre corps et on entraîne notre esprit au calme mental. Mais le cœur est assez peu présent. Finalement, on ne parle pas du cœur dans la pleine conscience. C'est quelque chose dont on ne tient pas spécialement compte. Et je me suis rendu compte que c'était un problème. C'était un manque parce que nous sommes tous des êtres affectifs. La relation aux autres est déterminante dans notre vie. L'amour de soi, l'estime de soi est fondamentale pour bien vivre. Et donc, je me suis dit, quel dommage de ne pas utiliser ce formidable exercice de la méditation aussi pour ouvrir son cœur, pour l'agrandir, pour le guérir. Et c'est pour ça que j'ai plutôt travaillé depuis 35 ans sur comment on pouvait rajouter à la mindfulness la dimension du cœur.
Mais Frédéric Lenoir, il faut s'accorder du temps pour méditer. Ce temps-là, c'est un luxe dans la vie moderne.
Ah, c'est un choix. Et c'est là que vous disiez tout à l'heure, la sagesse, ça demande un petit effort. C'est-à-dire, si on veut effectivement s'améliorer, si on veut grandir en sérénité, et bien à ce moment-là, il faut faire le choix de renoncer à autre chose. Et donc, on va dire, ben tiens, je vais regarder la télé 10 minutes de moins par jour pour prendre ce temps pour méditer, pour prendre ce temps pour moi. Et puis, ça peut être une méditation. Donc, encore une fois, moi, je propose deux types de méditation. Soit la mindfulness, c'est-à-dire la pleine présence. On essaie simplement d'être présent à soi en laissant passer les pensées. Ou alors, des méditations orientées pour développer des qualités qui nous permettent de guérir notre cœur ou d'agrandir notre cœur.
Bon, il est temps de nous parler de la très étonnante association baptisée Sève que vous avez imaginée, Frédéric Lenoir, pour proposer donc des ateliers de philosophie et de pratique de l'attention par la méditation dans les écoles, donc pour les enfants, avec la bénédiction de l'éducation nationale.
Oui, parce que je me suis rendu compte que moi, ayant déjà été élève et un élève turbulent parce que je m'ennuyais en classe, ce qui manque à l'éducation, c'est ce que dit Montaigne. Montaigne nous dit...
Montaigne, le sceptique.
Le sceptique,
pourtant.
Oui, mais qui nous dit l'éducation, elle est là pour nous faire une tête bien pleine. Et en fait, ce serait beaucoup plus judicieux qu'elle nous aide à avoir une tête bien faite. C'est-à-dire ce qu'on devrait apprendre aux enfants, plutôt que simplement une accumulation des savoirs, il faut leur apprendre à vivre, il faut leur apprendre à discerner, il faut leur apprendre à juger par eux-mêmes. Et quoi de mieux que la philosophie pour apprendre aux enfants par des débats, par des discussions, pour développer leur esprit critique.
Alors, vous commencez avec quelle classe d'âge ?
Je commence toujours au primaire, c'est avec des CP. Donc, ils ont en moyenne 6-7 ans.
Bon, il est temps de nous parler de la très étonnante association baptisée Sève que vous avez imaginée, Frédéric Lenoir, pour proposer donc des ateliers de philosophie et de pratique de l'attention par la méditation dans les écoles, donc pour les enfants, avec la bénédiction de l'éducation nationale.
Oui, parce que je me suis rendu compte que moi, ayant déjà été élève et un élève turbulent parce que je m'ennuyais en classe, ce qui manque à l'éducation, c'est ce que dit Montaigne. Montaigne nous dit...
Montaigne, le sceptique.
Le sceptique,
pourtant.
Oui, mais qui nous dit l'éducation, elle est là pour nous faire une tête bien pleine. Et en fait, ce serait beaucoup plus judicieux qu'elle nous aide à avoir une tête bien faite. C'est-à-dire ce qu'on devrait apprendre aux enfants, plutôt que simplement une accumulation des savoirs, il faut leur apprendre à vivre, il faut leur apprendre à discerner, il faut leur apprendre à juger par eux-mêmes. Et quoi de mieux que la philosophie pour apprendre aux enfants par des débats, par des discussions, pour développer leur esprit critique.
Alors, vous commencez avec quelle classe d'âge ?
Je commence toujours au primaire, c'est avec des CP. Donc, ils ont en moyenne 6-7 ans. Et donc, ils apprennent à discuter. On choisit des thèmes, le bonheur, le sens de la vie, la morale, etc. Et les enfants disent ce qu'ils pensent. C'est le seul lieu dans l'école où ils disent ce qu'ils pensent. Tout le reste, ils répètent ce qu'ils ont appris. Et là, ils disent ce qu'ils pensent et on considère que ce qu'ils pensent est essentiel. Donc, les enfants sont déjà très heureux de s'exprimer. Et ensuite, ils apprennent à s'écouter. Ils apprennent à se critiquer de manière constructive. Ils apprennent la tolérance. C'est un débat de
citoyenneté.
Mais
ces ateliers de philosophie existent dans de nombreuses écoles en France ?
Dans de nombreuses écoles, ils sont faits dans le cadre du cours d'éducation morale et civique. Sauf qu'au lieu de faire un cours d'éducation morale, on fait débattre les enfants. C'est pour ça qu'on appelle ça atelier philo, parce qu'ils débattent des grandes idées, des grands thèmes. Et l'animateur, que soit l'enseignant ou quelqu'un formé par notre fondation, donc la fondation CEF, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble.
Oui.
On peut trouver sur le site internet cef.org. Et CEF, en fait, c'est simplement pour former des animateurs. On en a formé 3000 en 2 ans, sur plusieurs week-ends, qui vont dans les écoles ou qui sont enseignants et qui font ces ateliers de méditation. Les résultats sont incroyables. J'en ai fait plusieurs à la ville de Trappes, dans les Yvelines, qui est une ville dont une grande population réputée difficile, avec des écoles difficiles. Les résultats étaient tels que maintenant, ils nous ont commandé 500 ateliers de philo sur l'année pour que tous les enfants puissent en profiter. Parce que ça change complètement l'ambiance d'une classe. Et puis, j'ai découvert, en faisant les ateliers philo, que les enfants étaient très agités, très nerveux, qu'ils avaient du mal à se concentrer. C'est pour ça que j'ai fait précéder les ateliers philo d'une petite pratique de l'attention, qui est une méditation de mindfulness très simple, où pendant 2 minutes, on les aide à lâcher le mental. Ils sont tout le temps, vous savez que les enfants, c'était prouvé scientifiquement aussi, ils n'arrivent pas à être attentifs plus de 8 secondes. Et donc, c'est incroyable. Et bien là, grâce à la méditation, ils augmentent leur capacité d'attention et de concentration. Et ça leur permet du coup d'être beaucoup plus présents à tout ce qu'ils font.
Dans quelques minutes, la conversation entre Isabelle Morizet et son invité, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, se poursuit sur Europe 1. Il nous parlera entre autres de son livre « Méditer à cœur ouvert ».
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Depuis 21h, vous écoutez la conversation entre Isabelle Morizet et son invité, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. On les retrouve tout de suite sur Europe 1.
Frédéric Lenoir fait paraître chez Niel l'édition « Méditer à cœur ouvert ». On a 1000 choses à se dire, cher Frédéric. Cette injonction au bonheur qui caractérise notre société, elle est assez récente, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Alors c'est vraiment la fin des années 60. C'est, grosso modo, c'est cette espèce d'euphorie qui a pris les sociétés occidentales.
Après les 30 Glorieuses.
Au début même des 30 Glorieuses, ouais. Les années 60. Et là, on s'est dit, finalement, chaque individu doit être heureux. Et ce qui était un droit, d'ailleurs le droit au bonheur, c'est inscrit dans la Constitution américaine. C'est devenu un devoir. C'est-à-dire que c'est devenu le mot d'ordre de la modernité. On doit être heureux. Et du coup, ça devient presque un problème. Parce qu'à vouloir trop être heureux à tout prix, finalement, on est malheureux. Ce qui fait que c'est très bien. On recherche tous plus ou moins le bonheur. Évidemment, à travers toutes nos expériences, on cherche plutôt à être en bonne santé qu'en mauvaise santé. On cherche plutôt à être heureux en amour que malheureux en amour. On cherche à faire un métier qu'on aime. Mais en même temps, ça ne doit pas être une injonction. Ça ne doit pas être quelque chose de lourd. Ça ne doit pas être un fardeau. Et donc, je crois que autant on peut tous essayer de lutter pour qu'il y ait moins de malheur dans notre vie. Autant être obsédé par l'idée de bonheur, ça peut plutôt créer l'inverse.
Mais si vous regardez en boucle les chaînes d'infos, vous aurez beaucoup de mal à produire de la pensée positive et à méditer sereinement. Est-ce que le négativisme, c'est un mal français ?
Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'en France on est aussi négatif ? Comme je voyage beaucoup,
bon, alors
j'ai
je vous
la
pose
chance.
La question.
Alors j'ai la chance de voyager beaucoup et je constate qu'on est presque unique. Dans
vraiment
la plupart des pays, quand vous voyagez, mais il suffit d'aller dans nos pays voisins, on est beaucoup moins négatif. C'est encore beaucoup plus positif si on voyage en Afrique, en Asie, aux États-Unis, etc., où les gens sont beaucoup plus positifs. En fait, le mal français, il vient de 2 choses. Il vient, je dirais, d'un héritage cartésien, d'un héritage voltairien. Descartes, c'est vraiment l'esprit critique qui fait qu'on a développé ce doute systématique. Et donc, systématiquement, on doute toujours de tout. Il ne faut pas se la raconter, si vous voulez.
Voilà. Et puis Voltaire, et l'esprit critique finit par accoucher du cynisme.
Du cynisme, exactement. Et puis, Voltaire en a rajouté une couche avec le mythe de l'imbécile heureux. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a que les imbéciles qui peuvent être heureux. Si on est lucide, forcément, on est pessimiste, on voit tout ce qui va mal, on voit le tragique du monde, etc. Et en France, il y a toujours l'idée que si on est trop heureux, on est un naïf, on est un imbécile, etc. Et donc, il y a cette espèce d'esprit critique qui fait qu'on critique tout, systématiquement. Et en même temps, on ne veut pas avoir l'air trop heureux. Moi, quand je vais aux États-Unis, j'arrive à vous poser la question « comment vous allez ?» Tous les gens vous disent « formidable, great, amazing ». Ils en font peut-être un peu trop dans l'autre sens. Quand je reviens en France, c'est « ouais, pas trop mal, ça peut le faire, ah là là ». Et donc, il y a toujours un peu cet esprit.
Et puis, on
esprit.
Est assez fiers d'être considérés comme un peu plus cérébral,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui, on est intellectuel, on est cérébral, Et du coup, cette peur d'être naïf, etc., ça nous rend assez négatifs. Et là-dessus, je pense que c'est idiot d'opposer les choses comme ça. On peut très bien être parfaitement lucide, parfaitement conscient de tout le tragique qu'il y a dans l'existence, tout en étant optimiste, tout en étant positif, c'est-à-dire trouver des solutions.
Alors, le négativisme, dites-vous, est vraiment un mal français, mais pourtant, 2,5 millions de Français pratiquent très régulièrement la méditation.
Mais
donc ça veut dire
c'est
que...
C'est parce qu'on en a besoin.
Voilà.
Mais parce que vous avez également...
On commence à se rendre
compte
du manque.
Oui, mais pourquoi ? Parce que vous avez 10 millions de Français qui prennent des antidépresseurs et des anxiolytiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont en train de quitter les antidépresseurs ou les anxiolytiques pour faire de la méditation.
D'accord.
Je pense que c'est plus sain.
Bon, alors vous dites que méditer, c'est une pratique de présence aimante à soi-même et aux autres, qui développe la confiance et la gratitude. Et on vient de parler de Montaigne, mais il paraît qu'on trouve sur votre table de nuit, Frédéric Lenoir, les essais de Montaigne, grand penseur et philosophe français du XVIe, connu pour être vraiment un sceptique. Alors, votre grille de lecture à vous, quand vous lisez Montaigne, puisque vous aimez plonger dans les essais, vous qui êtes persuadé que par la méditation, on peut retrouver la bienveillance, la confiance, le pardon...
On peut grandir dans ces valeurs-là. Ça veut dire qu'on ne va pas les retrouver comme une recette magique. Je ne crois pas aux recettes. Je ne crois pas aux miracles. C'est-à-dire que c'est un travail progressif. À force de méditer, vous allez être moins anxieux. À force de méditer sur des thèmes comme ça, vous allez mieux arriver à pardonner. Vous allez être davantage dans la sérénité. Donc oui, c'est un progrès possible. Ça ne veut pas dire que vous allez définitivement réussir à pardonner à tout le monde. Mais disons que vous pouvez progresser. Ce que j'aime dans Montaigne, c'est que comme lui, j'ai envie de dire j'aime la vie. Montaigne, c'est un amoureux de la vie. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aimer la vie de plus en plus. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui peut être transmis à tout le monde, c'est cet amour inconditionnel de la vie. Et apprendre à aimer la vie avec ses hauts, ses bas, ses moments joyeux, ses moments douloureux, avec ses tristesses, des deuils, avec en même temps ses grandes joies des naissances, eh bien, lorsqu'on aime toute la vie, avec toutes ces dimensions, comme un morceau de musique où il y a à la fois des moments enlevés, des moments lents, du son, des silences, etc. Et bien finalement, on est heureux tout simplement parce qu'on aime la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit.
Alors vous avez énormément voyagé, vous êtes allé au bout de la planète, vous avez passé 3 années dans un monastère, vous avez failli d'ailleurs devenir moine, vous êtes philosophe, sociologue, écrivain. Est-ce que vous êtes devenu celui que vous vouliez être ?
J'ai jamais eu de projet de vie. C'est-à-dire, je me suis jamais projeté en disant je veux être président de la République, comme je sais que certains en avaient le désir depuis l'adolescence, ou je veux être écrivain, ou je veux être... J'ai jamais eu une projection. La seule chose, peut-être, que j'ai voulu être, c'est que j'ai voulu être plus conscient et plus aimant. C'est-à-dire que je me suis dit, je me donne 2 objectifs dans la vie. J'ai envie de grandir en conscience. C'est-à-dire, j'ai envie d'être plus lucide, plus conscient, et j'ai envie d'être plus aimant. C'est-à-dire d'arriver à aimer mieux. Et je pense que je suis sur ce chemin. Ça veut pas dire que je suis arrivé au bout.
Continue ce soir sur Europe 1. Le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir se confie au micro d'Isabelle Morizet. On les retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Très belle soirée sur Europe 1. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet et le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir pour la dernière partie de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Cher Frédéric Lenoir, il y a 2 ans, vous avez effectué une semaine de marche sur les routes de Compostelle pour le tournage d'un film coréen, car votre parole est aujourd'hui vraiment délivrée dans le monde entier. Et cette marche vers Compostelle vous a tellement enthousiasmé que vous avez décidé de faire le pèlerinage complet, c'est-à-dire en partant du Puy-en-Velay. Et puis, surtout, sans portable ni ordinateur. Ça dure 2 mois hein, quand on part du Puy-en-Velay pour aller jusqu'à Compostelle. Vous l'avez fait ou pas encore ?
Eh bien, je me suis tordu le genou 2 mois avant de partir.
Non.
Et donc, c'était impossible que je marche autant avec un genou qui était tordu. Et donc, du coup, ben après, comme j'avais d'autres engagements, j'ai reporté. Je vais le faire en 2020.
En 2020 ? Bon, alors ça veut dire que votre agenda, il
2019,
est vraiment...
Ben là, je vais faire une série documentaire pour Arte de 5. Je vais réaliser 5 épisodes d'une heure en 2019. Donc, je vais encore faire 17 pays.
Avec pour sujet
Les chemins du sacré. C'est-à-dire que la manière dont les hommes cherchent le sacré dans toutes ses dimensions à travers la planète. Donc, je vais voyager dans de très nombreux pays. Donc, 2020, je vais prendre plus de temps pour moi et notamment faire cette marche.
Quand vous partez ainsi réaliser des documentaires à l'autre bout du monde, c'est avec une toute petite équipe ou bien...
Oui, c'est une petite équipe, c'est 5 personnes. Il y a 2 caméramans, un preneur de son, une attachée de production, un interprète.
Vous savez toujours où vous allez ou bien il y a, comme pour certaines émissions de prospection, un fixeur sur place et vous vous aventurez.
Tout ça se fait à l'avance. C'est-à-dire que je sais, il y a un fixeur sur place qui a trouvé les personnes que je cherche. Donc je lui dis, voilà, je voudrais rencontrer un chaman dans la forêt amazonienne qui va m'expliquer ce que c'est que l'ayahuasca, etc. Et à ce moment-là, bah, quelqu'un va me chercher cette personne, fait des pré-enregistrements, si vous voulez, des pré-interviews. Et du coup, je sais si cette personne me semble authentique, est-ce qu'elle a quelque chose à dire. Parce que c'est des gens merveilleux qui sont incapables de parler.
Oui.
Et donc,
ils ne savent pas livrer leur
témoignage, leur savoir. Je veux voir des photos, je veux voir des photos du lieu, que ce soit des belles images, etc. Et donc, tout ça s'organise à l'avance. Et puis, une fois qu'on sent qu'on tient vraiment un personnage intéressant, un lieu fort,
oui,
on part.
Il y en a encore beaucoup des chamans de par le monde.
Heureusement, oui, mais bon, ça disparaît parce que actuellement, bah, vous savez que tous les peuples premiers sont en train de disparaître les uns après les autres. Hein, depuis le XXe siècle, il y a une très forte diminution. Il y en a certains qui tiennent, mais alors là, je suis très inquiet par ce qui se passe au Brésil, puisque bah, la forêt amazonienne, c'est un des lieux les plus importants où il y a encore beaucoup de tribus avec des chamans et qui vivent encore de manière traditionnelle.
Mais elle brûle, cette forêt.
On est en train de la déboiser complètement. Mmh. Et l'élection du nouveau président de la République, une des premières choses qu'il a déclarées, c'est qu'il allait continuer de déforester de plus en plus, de déboiser au profit de grandes firmes américaines qui vont faire des champs de soja pour nourrir le bétail américain, lequel bétail souffre atrocement parce qu'il est élevé de manière industrielle. Enfin, on est vraiment dans une atrocité. On détruit la forêt, on fait souffrir les animaux. Donc, c'est contre ça qu'il faut lutter.
Et il est temps d'aller recueillir donc tous ces témoignages et
oui,
de filmer
de ces gens qu'on expulse,
qui risquent de disparaître.
Voilà, exactement.
Alors, Frédéric Lenoir, vivre en pleine nature, bah, vous connaissez parfaitement puisque la moitié de l'année, vous vivez relativement isolé dans votre paradis corse, tout près de... Alors, je suis sûre que je vais mal le prononcer. Coticavari, d'accord. C'est là-bas que vous écrivez ?
Oui, j'écris toujours dans la nature. C'est-à-dire que j'ai eu la chance depuis 20 ans de pouvoir avoir des maisons à la campagne, donc ça a été dans des endroits divers, et depuis plus de 5 ans je suis en Corse. J'ai jamais écrit une ligne en ville.
Vous commencez à pratiquer la langue corse ou pas ?
Non, franchement, je comprends 3 mots, mais j'ai pas fait l'effort d'apprendre la langue corse, comme j'ai pas fait spécialement l'effort d'ailleurs d'apprendre d'autres langues. Je parle un peu l'anglais parce que j'en ai besoin dans mon métier, mais j'ai jamais été spécialement doué en langue.
Mais alors, comment les Corses, qui ont un tempérament très affirmé, considèrent-ils le penseur adepte de méditation que vous êtes ?
Alors, ça se passe très bien. Parce que les Corses, oui, ils ont un tempérament affirmé, mais c'est surtout des gens, il faut les respecter. Si vous arrivez en conquérant parisien, en donnant des ordres à tout le monde, vous allez être rejeté tout de suite. Parce qu'ils ont du caractère. Mais moi, j'ai jamais été comme ça dans la vie. Je suis très respectueux des gens, je suis plutôt humble dans le quotidien. Ce qui fait que j'ai toujours eu d'excellentes relations avec mes voisins, avec les gens que je rencontre. Et en plus, les Corses s'intéressent à la spiritualité. C'est des gens attachés aux valeurs, attachés aux traditions.
J'ai appris que votre association Sève, dont on a parlé tout à l'heure,
elle se développe en Corse.
Voilà, elle se développe en Corse, elle est déjà présente à Bastia et à Porticcio.
Tout à fait, et puis je fais partie de Humani, qui est un mouvement humaniste corse qui a été fondé par Jean-François Bernardini, qui est le leader du groupe corse Imouvrini, vous savez, son merveilleux groupe de chants corse.
Polyphonique.
Et donc il a fondé une association qui lutte contre la violence, qui est merveilleuse, dont je fais partie, et ce qui fait que voilà, j'œuvre avec d'autres Corses pour la paix, pour l'amélioration de l'être humain, et puis je comprends tout à fait le tempérament corse qui est sensible à ses traditions, à sa langue. Ils ont une culture qui est très forte. Et donc là-dessus, moi, je respecte entièrement ça. Je m'entends très bien avec Gilles Simeoni, qui est le patron de l'Assemblée corse et le maire de Bastia. Et je comprends parfaitement, si vous voulez, ce besoin d'identité du peuple corse. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut tolérer la violence. Et je pense que là-dessus, justement, plus on respectera les Corses dans leurs revendications légitimes, moins il y aura de violence.
Je rappelle le titre donc de votre dernier ouvrage qui parlait chez Nil Édition, accompagné d'un CD pour des méditations guidées, en musique ou pas, méditer à cœur ouvert. J'ai encore 1000 questions à vous poser, alors vous promettez de revenir, Frédéric Lenoir.
Bon, avec joie, et puis je souhaite aussi beaucoup de joie et de sérénité à tous vos auditeurs.
Je vous embrasse, à très bientôt.
Merci.
Vous écoutez Europe 1 et c'est déjà la fin de cet entretien intime entre Isabelle Morizet, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. Demain, vendredi, Isabelle Morizet recevra les comédiens Pierre Ninet et Anaïs de Mustier. Excellente soirée sur Europe 1, à suivre le journal de Thibault Lambert.